fera un peu le ménage. Bonjour à tous. C'est bon. Nouvelle année, nouveaux engagements, nouvelle vision, nouvelle promesse, et même un nouveau sac pour amener mes affaires pour la prédication. L'ancien était vraiment décidément trop usé. C'était le sac d'école de mon père, alors vous dire qu'il a quand même... Il avait quelques années, mais il n'y avait même plus assez de cuir pour remettre du fil pour réparer là où il y avait des trous. Alors, j'ai la mort dans l'âme, j'ai dû me décider à passer à du plastique, si vous voulez. C'est comme ça. Voilà, donc, bien sûr, en prolongeant ce qui a été déjà dit ce matin, et pour commencer, pour ceux que je n'ai pas encore vus, je vous souhaite, bien sûr, une excellente année 2019. Ça a déjà été dit, elle sera pleine de surprises, pleine de rebondissements, pleine de choses que nous ne pouvons pas entrevoir aujourd'hui. Mais vraiment, je veux prier pour que chacun d'entre nous, on sache que, où que nous soyons, et quelles que soient les circonstances, nous ne sommes pas seuls. Parce qu'il y en a un qui a fait la promesse, je suis avec vous tous les jours. Donc 2019, ça rentre dans les tous les jours. Ça ne s'arrête pas au 31 décembre 2018. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et pour la prédication de ce matin, je vais vous proposer de revenir à un texte très ancien. D'après ce que j'ai lu, il a 27 siècles au moins, plus de 2700 ans. Dans une prophète de l'Ancien Testament. Et vous savez, je vous ai déjà dit depuis quelque temps, je relis un certain nombre de textes que je connais dans des versions un peu modernisées. Enfin, modernisées, je ne sais pas si c'est le mot qui convient bien, mais en langage un peu plus courant. Et quand j'étais en visite chez les Perrault, là-bas dans le Midi, Jean Lionel m'a passé ce livre « Prophète pour notre temps ». C'est encore une fois tous les prophètes de la Bible traduits dans un langage accessible. Et je me suis donc plongé dans ce livre. Et on redécouvre des merveilles en les lisant traduits ou dit autrement. Et il y a peu, j'étais dans le début du prophète Ésaïe. Et il y a vraiment un texte qui m'a... C'était peu de temps avant la fin de l'année, qui m'a frappé. Qui m'a interpellé, et c'est ce texte que je vais vous proposer de lire maintenant. Et puis on verra quelques commentaires, parce que non seulement il est rafraîchissant, non seulement il nous rappelle des choses, mais je le trouve extrêmement actuel. Dans Ésaïe, au chapitre 8, donc si vous suivez dans d'autres versions, ne soyez pas étonnés, mais le sens général est le même, ne vous inquiétez pas, je vais un peu vérifier, ça va. Puis Alfred Kuhn, on pouvait lui faire confiance, quand même, c'était plutôt quelqu'un sérieux. Ésaïe chapitre 8, au verset 5, l'Éternel me parla en ces termes, puisque ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui à cause de Retsin de Pekach, fils de Remaliaou, à cause de cela. Voici que le Seigneur fera monter sur eux les eaux du fleuve, les flots forts et intarissables. Le roi de la Syrie, toute son armée, il sortira de son lit, il franchira les berges, passant par-dessus tous ses bords, il pénétrera en Judée, il la submergera, atteindra jusqu'à sa gorge. Le déploiement de ses flots couvrira toute l'étendue de ton pays, Emmanuel. Poussez des cris de guerre au peuple, vous serez défaits. Prêtez l'oreille vers les pays lointains. Soyez prêts au combat, mais vous serez défaits. Concertez-vous sur votre plan, mais il n'aboutira pas. Distribuez vos ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Car voici en effet, l'Éternel m'a parlé quand il m'a empoigné et qu'il m'a exhorté à éviter la voie suivie par tout ce peuple. Voici ce qu'il m'a dit, ne dites pas complot, chaque fois que ce peuple parle de complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint, ne le redoutez pas, reconnaissez pour saint l'Éternel Tout-Puissant. C'est lui que vous craindrez, c'est lui qu'il faut redouter. Il est un saint refuge, mais il sera aussi la pierre que l'on heurte, le roc qui fait tomber. Enferme cet oracle, celle l'instruction. J'espère en l'Éternel qui cache sa présence au peuple de Jacob. Je me confie en lui. Voici, nous servirons de signe de la part du Seigneur, l'Éternel Tout-Puissant. Lorsqu'on viendra vous dire, allez consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent, qui marmottent, répondez-leur, mais un peuple doit consulter son Dieu. Ira-t-il consulter les morts pour les vivants ? À la loi, au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore qui luira pour ce peuple, mais il sera errant, pressé, affamé. Il maudira son roi, il maudira son Dieu, et regardant la terre, il n'y verra qu'angoisse, obscurité, détresse. Mais il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur cette terre. Au chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra soudain briller une grande clarté. la lumière rayonne. Et un peu plus loin, au verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté sera sur ses épaules, on l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je m'arrête ici sur la lecture, un petit peu longue, excusez. Un texte prophétique, traduit un petit peu de façon, si possible, un peu poétique ou un peu arrangée. Il date d'une époque particulière, donc bien sûr, il a 2700 ans. Tout ne s'applique pas directement et il y a certainement des éléments qui nous manquent. Par exemple, quand il fait référence aux eaux de Siloé, vous avez entendu au début. Alors nous qui connaissons bien l'Évangile, on pense au Siloé. Alors la tour de Siloé qui était tombée, qui avait écrasé un certain nombre de personnes. Ou bien alors l'aveugle qui est allé se laver à la piscine de Siloé dans l'Évangile de Jean au chapitre 9 et qui a été guéri. Mais ici c'est autre chose. Et en remontant un petit peu, en recherchant un peu historiquement, Siloé c'était un réservoir d'eau potable pour la ville de Jérusalem qui était alimenté par une source tranquille, une source qui amenait de l'eau régulièrement, de l'eau potable à Jérusalem. Et là, le prophète fait une comparaison entre cette source tranquille, vivifiante, de l'eau pure, et puis le grand fleuve, l'Euphrate, qui était un fleuve qui pouvait avoir des débordements terribles. Et là, il nous dit, tiens, puisque vous n'avez pas eu confiance dans cette eau tranquille, qui représente bien sûr la présence de Dieu permanente et vivifiante, puisque vous n'avez pas eu confiance dans le fait que Dieu était là avec vous, et que vous avez préféré d'autres choix, eh bien, voilà, la puissance des grandes eaux de l'Euphrate vont venir, vont tout inonder. Alors voilà, quand on lit des livres prophétiques, il faut essayer de chercher un peu les sources historiques, parce que sinon, bien sûr, il y a des éléments qui pourront nous échapper. Mais même avec cette image qui est très loin de notre quotidien, il y a un sens qui est important. Vous avez préféré vous confier à d'autres sources de puissance qu'à celles qui vous étaient offertes en permanence. Cette source qui coule tout le temps, petitement peut-être, de façon très tranquille, mais qui vous apporte de l'eau potable en permanence dans ce réservoir de Siloé. Puis deuxième chose, quand on aborde un texte si ancien que ça, c'est un texte dit messianique, c'est-à-dire qu'il a toujours été interprété comme étant un texte qui annonce la venue de Jésus. Ces derniers versets que j'ai lus, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est bien sûr des paroles qui nous évoquent la venue de Jésus. Alors, c'est pas Ésaïe qui le dit. Ésaïe n'a pas dit, tiens, je vais écrire un texte messianique. Non, il écrit juste ce que le Seigneur lui mettait à cœur. Mais dans ses paroles, comme dans la plupart ou la totalité des prophètes qui sont mentionnés dans la Bible, il y a toujours une certitude qui les anime, quel que soit le message principal ou conjoncturel qu'ils avaient à délivrer, c'est qu'à la fin, Dieu aura le dernier mot pour le bien de tous. Et pour apporter le bien à tous. Et Ésaïe nous dit ça, là aussi. Il parle de choses terribles, et en même temps, à la fin, un enfant nous est donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, celui par lequel l'histoire de l'humanité va être transformée. Et puis, autre élément, vous avez remarqué dans la lecture, j'ai essayé de le faire en disant, je ne sais pas si c'était suffisamment clair, il aurait fallu se mettre à plusieurs lecteurs, peut-être, mais il y a alternance en permanence entre du bon et du mauvais. Du positif et du négatif. Inondation de la Syrie, terrible. Les inondations, on en a vu quelques-unes en 2018, ça fait des dégâts. Et puis derrière ça, mais ils ne gagneront quand même pas, car, vous avez entendu, Dieu est avec nous. Vous pouvez toujours préparer tous vos plans de bataille, vous ne gagnerez pas, car Dieu est avec nous. Et l'Éternel est notre rocher. Ah oui, mais ce rocher, il peut en faire tomber certains. On peut se casser les pieds sur ce rocher, se casser un orteil en tapant dedans. Voilà. Mais, j'espère en l'Éternel, même s'il cache sa présence. Vous avez entendu ce verset aussi. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à Israël. Eh oui, l'Éternel, des fois, pas très visible. Et puis, si on se confie à de mauvaises influences, les devins, etc., c'est la confusion qui est là. Et petit à petit, on ne voit que ténèbres et désespoir. Mais dans les ténèbres, il y a une grande clarté. Et en permanence, le prophète nous montre finalement ce qui est notre vie. Parce que notre vie, c'est pas un long fleuve tranquille, l'expression est un peu galvaudée, mais Ésaïe sait bien que la vie n'est pas simple, même pour nous chrétiens. Il y a des événements dramatiques qui arrivent, malgré ce que Marie a pu nous dire d'encourageant. Voilà, on passe par des moments qui sont difficiles, et puis on passe aussi par des moments heureux. et la balance passe son temps à basculer d'un côté et de l'autre. Alors, en 2019, ne croyons pas que, et ne laissons pas croire que parce que nous sommes chrétiens, tout va aller tout seul comme sur des roulettes. Non, c'est pas si simple que ça. Et puis des fois, le Seigneur, on le voit, quand on est au culte, là, on chante tous ensemble, c'est bien, on le sent. Et puis après, lundi matin, quand on va se retrouver devant, je sais pas, sa table de travail à l'école ou avec ses collègues qui vous font la tronche ou je sais pas quoi, tout ce qu'on peut imaginer, bah, il sera beaucoup moins visible. Hein, et des fois, il cache sa face. Et puis, dernière différence que je voulais souligner par rapport à pour aborder ce texte prophétique, c'est à l'époque d'Ésaïe, on raisonnait global, national. Hein, on dit le peuple dit ceci, le peuple fait cela. On parlait de l'attitude d'un peuple soumis à son roi et qui était entraîné pour croire ceci ou pour croire cela. Faisons attention à ne pas aussi vouloir reproduire ces circonstances-là. Certains s'y sont essayés. Hein, dans les années 70-80, il y avait toute une floraison d'ouvrages qui prétendaient voir des trucs dans les nations, Gog et Magog et tout ce qu'on voulait, etc. Ils ont écrit des tas d'âneries qui ne se sont pas réalisées. Donc, faisons attention. Même certains chants hein, de nos recueils qui exaltent « Seigneur, viens sur ce pays », etc. Je suis toujours un peu hésitant pour les chanter parce que ça me paraît dangereux. Ce n'est pas comme ça qu'aujourd'hui Jésus veut nous parler. Et je vais juste vous citer deux petits textes de l'évangéliste Jean. Un dans le début de son évangile, le prologue de l'évangile, comme on dit. « Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux... » individuel, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir, chacun pour sa part, je rajoute quelques petits mots, enfant de Dieu, ceux qui croient en son nom et qui sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'appartenance à tel ou tel pays, peuple ou race, ou ce que l'on veut, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Et dans le même apôtre Jean, dans l'Apocalypse, ce texte si connu, « Voici, je me tiens à la porte », et je frappe si quelqu'un entend ma voix. S'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. On est dans quelque chose de très personnel, et c'est cela que le Seigneur veut nous donner et nous proposer pour l'année qui vient. Alors, voilà, j'ai marqué quelques précautions à prendre quand on aborde un texte si vieux que celui-là, prophétique, mais en même temps, nous croyons que ce texte, il est pour nous aujourd'hui. Et on va essayer de voir quelques... Qu'est-ce qui finalement m'a arrêté dans ce texte quand je l'ai lu il y a quelques semaines de cela et qui a fait tilt en me disant ce texte-là, il est très actuel. C'est une banalité de dire que notre monde va de travers. Ou que du moins la perception que nous en avons nous dit que le monde va de travers. Parce qu'il y a quand même aussi à la fois la réalité et la manière dont nous percevons certaines choses. Hein. Il y a des guerres ici et là, des nationalismes dangereux qui reviennent, le réchauffement climatique qui fait peur... Les effets de menton ou de muscle de tel ou tel dirigeant politique, l'un qui veut construire un mur, l'autre qui veut avoir l'arme nucléaire la plus forte, etc. L'autre qui veut faire plier tout le monde par une pression commerciale, enfin, c'est ça, enfin, un peu, hein, des tremblements de terre, oui, en Indonésie, il n'y a pas si longtemps, un tremblement de terre qui a fait encore quelques centaines ou milliers de morts. Et puis, rien n'est protégé, nos données sont manipulées en permanence sur Facebook, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des... Enfin, Facebook ou autre réseau social, hein, c'est... D'accord. Et puis il y a ces flux migratoires, ah là là, c'est terrible, incontrôlable. Et puis du coup, il y a la perte de confiance dans tout ce qui fait notre démocratie, nos institutions. Et puis il y a des gilets jaunes, et puis il y a le ras-le-bol fiscal, et puis on pourrait continuer à égrener comme ça. Quantité d'éléments qui nous font oublier que, soyons sérieux, nous vivons dans un monde qui est quand même beaucoup plus sûr que le monde dans lequel vivaient nos grands-parents il y a 100 ans, sans parler de l'époque d'Ésaïe, hein. Vous étiez quand même en pleine guerre où le peuple Juda était menacé d'être envahi par Israël, le royaume du Nord, et finalement c'est la Syrie qui est venue tout balayer, quoi. Je veux dire, ça fait 75 ans bientôt que nous n'avons pas eu de guerre en Europe. C'était jamais arrivé dans l'histoire. On a une espérance de vie en bonne santé supérieure à 80 ans. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, j'en sais rien. Des fois, il y en a qui insistent un peu, hein, qui vivent trop longtemps, mais voilà, c'est quand même la vérité, en moyenne et en général. On a une liberté individuelle et collective formidable. La possibilité de voyager dans le monde entier, et on s'en prive pas. Quelle que soit la trace carbone, d'ailleurs, mais bon, ça, c'est une autre sujet. On a un accès à la connaissance qui semble illimité dans tous les domaines. On peut trouver des choses comme ça. Et pourtant, dans la société en France, et pas qu'en France, que de rancœurs accumulées, que de malaises, que de choses comme ça qui vont... Alors bien sûr... tout n'est pas parfait, mais si ce texte m'a interpellé, c'était pour me dire que quel message nous avons à apporter, nous, en tant que prophètes, en 2019. Parce que, bon, Ésaïe, c'était un prophète un peu repéré, si j'ose dire, professionnel, on va dire. Mais nous sommes tous des prophètes amateurs, en quelque sorte, je vais le dire comme ça. L'apôtre Paul, quand il est en train de parler avec les Corinthiens de la manière dont Dieu nous équipe pour vivre dans notre vie chrétienne, il dit « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Il dit ça. Il ne dit pas que c'est seulement pour savoir s'il faut manger ou pas de la viande sacrifiée aux idoles. Il dit « De manière générale, ceux qui sont prophètes, ils sont là pour apporter quelque chose. » Alors quel message voulons-nous adresser par la parole, par nos actes, par nos engagements à nos contemporains qui sont souvent déboussolés, c'est une chose, mais surtout entraînés à se laisser envahir par un flot d'informations plus ou moins vraies, plus ou moins vérifiées, mais qui sont quand même omniprésentes. Et on revient à notre texte d'Ésaïe, au verset 11. Voilà ce que l'Éternel m'a dit. « Ne dites pas complot chaque fois que ce peuple parle de complot. Ne craignez pas tout ce que ce peuple craint. Ne le redoutez pas. » Reconnaissez pour saint l'Éternel Tout-Puissant, c'est lui que vous craindrez, c'est lui qu'il faut redouter. Complot, conspiration, disent d'autres traductions, c'est un mot qui était un petit peu oublié, hein, qui fait un peu penser, je ne sais pas, Louis XIV, le duc de Guise, etc. Mais c'est un mot qui revient un peu à la mode, on l'entend tellement, hein, l'affaire Benalla, la transition écologique, l'Europe, etc. À chaque fois, tac, on voit que plus ou moins il y a une histoire de complot là derrière. Et la tentation est grande pour nous aussi de se laisser entraîner vers le bas, dans cette spirale, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous sont envoyés par les médias en permanence. Et on n'a pas le temps ni les compétences pour juger de ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bien, ce qui est mal. Mais ce que nous dit ce texte, et ce qu'il m'a dit quand je l'ai lu, c'est « ne crions pas avec tout le monde au complot ». Non, c'est « faisons attention ». Mais par contre, raccrochons-nous à la deuxième partie de la phrase, c'est l'Éternel que vous devez craindre, c'est sur lui que vous devez compter, c'est à lui que vous devez vous accrocher, et c'est en le suivant que vous devez mener votre vie. Alors, je parlais des gilets jaunes, on ne peut pas ne pas en parler, évidemment. Alors, je ne porte aucun jugement sur le bien fondé ou pas des revendications, ni sur les erreurs que certains ont fait. Bon, je peux juste faire comme beaucoup, condamner la violence partout où elle se manifeste, ça c'est clair, c'est une chose évidente, mais dans ce mouvement, comme dans beaucoup d'influences qui envahissent nos esprits, l'amalgame permanent entre du vrai et du faux, ou du pas trop vérifié, etc., fait que, voilà, on est en train de tous crier au complot. Alors où est notre discernement? Où sont nos repères? Où sont nos priorités? Et la vie chrétienne, elle doit envahir aussi ces éléments-là de notre existence. Comment réagissons-nous dans un monde qui va parfois pas exactement dans la direction qui nous paraîtrait la meilleure? Comment nous allons réagir? Et l'apôtre Paul disait aux Philippiens, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance, en vraie sensibilité, et qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin d'être sincère, irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ces textes, on l'applique souvent, hein, et encore une fois, c'est légitime à des choses spirituelles, mais je crois vraiment que c'est des choses qui, pour moi, ça m'a parlé, parce que c'est vrai, pour la vie entière, le Seigneur doit pouvoir nous équiper. Tout à l'heure, Jean a cité ce texte, que celui qui donne le fasse sans contrainte, comme il l'a résolu dans son cœur. Et voilà, il y a des remplissons-nous de la parole de Dieu, qui peut, en la lisant, en la méditant, qui peut nous transformer notre manière de voir ce que c'est que l'offrande, par exemple. C'est un tout petit exemple. J'y pense parce que quand j'étais jeune, donc il y a quand même un certain nombre d'années, n'est-ce pas, nous faisions partie de l'eau vive, hein, ces camps de jeunes, etc. Et Brian Tadford me faisait apprendre des versets bibliques par cœur. Et ce verset-là, je m'en rappelle donc depuis, je ne dirais pas combien d'années, mais longtemps, hein, que celui qui donne, donne selon qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et puis il y en a plein d'autres, évidemment. Mais qu'est-ce que ça fait? Non seulement ça fait, c'est bon, je connais un verset de plus, et au concours des versets par cœur, j'étais pas mauvais, d'accord, enfin, c'est assez accessoire quand même. Non, ça transforme la manière dont je vois certains événements, le rapport à l'argent par exemple, voilà, parce que la parole de Dieu nous enseigne dans tous les domaines de notre vie, et que c'est comme ça que nous pouvons grandir dans tous ces domaines dont parle Paul aux Philippiens, pour que notre discernement soit affûté et pour que dans un monde qui effectivement est perturbant par plein de côtés, nous puissions avancer dans la direction que le Seigneur nous le demande. Parce que, comme à l'époque d'Ésaïe, nous serions tentés de nous reposer, nous appuyer sur des devins. Hein, au verset 19, « Allez donc consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui prédisent l'avenir. Répondez donc, un peuple doit consulter son Dieu, est-ce qu'il va consulter les morts pour les vivants ?» Alors évidemment, les diseuses de bonne aventure, les horoscopes dans les journaux, c'est un peu moins présent, et puis peut-être, je pense que vous n'en faites pas usage, enfin je suppose, voilà, en tout cas je vous déconseille de le faire, ça c'est sûr. Mais les sondages, mais les enquêtes d'opinion, mais tout ce qui nous abreuve en permanence, où on nous dit en permanence, tiens, oui, il y a tant de pourcents de ceci, tant de pourcents de cela, et voilà, l'opinion générale pense que ceci, alors est-ce que je vais aller... C'est un peu la même chose, ce sont les diseuses de bonne aventure d'aujourd'hui, ce sont les devins d'aujourd'hui qui, au travers de soi-disant travaux scientifiques, et j'ai fait des statistiques dans mes études, donc je sais comment ça s'est construit, veulent nous amener à penser des choses. Alors des fois c'est bien, je ne dis pas qu'il faut tout jeter, ce n'est pas le sujet, il faut simplement que nous sachions grandir et grandir suffisamment pour nous fier d'abord et avant tout à notre Dieu et consulter d'abord et avant tout notre Dieu plutôt que tous ces gens qui veulent nous prédire l'avenir. Parce que si on se fie seulement au sondage, et c'est peut-être un petit peu ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui, et bien il y a ce qu'on trouve dans ce texte. Parce que voilà, si on se confie pas en Dieu, alors le peuple sera errant, oppressé et affamé. Il maudira son roi, il maudira son Dieu. Tiens, ça nous rappelle des choses, ça. C'est plus un roi maintenant qu'on a, mais enfin bon, ça s'appelle un président de la République. Mais et puis regardant la terre, il n'y verra qu'angoisse, obscurité, détresse. Et il se sentira banni. Je trouve que ça ressemble assez fort à ce que nos contemporains expriment et qu'on entend aujourd'hui. Et nous, chrétiens, comment nous devons réagir? Alors, pour utiliser la phrase, à la loi et au témoignage, voilà ce qui doit faire le fondement de notre réflexion, de notre vie, nos engagements en 2019. Alors, c'est facile à dire. Un peuple doit consulter son Dieu. Nous devons, oui, c'est facile à dire. C'est pas si on aimerait bien avoir des réponses claires à des questions claires, hein, et ça marcherait tout seul. On n'aurait plus qu'à suivre, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que le texte qu'on a lu tout à l'heure dans les Philippiens nous donne un peu une clé. Il nous propose de grandir en amour. On a autour de nous quantité de gens, proches, moins proches, l'église, la famille, le travail, le voisinage, etc., etc., qui ont besoin de notre amour, qui ont besoin que, hein, quelqu'un disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, qui ont besoin qu'on leur témoigne véritablement que nous les aimons parce que Dieu les aime. Et ça, si on le fait, on va grandir dans cette dimension-là. Paul nous invite à grandir en connaissance. J'ai parlé tout à l'heure de la lecture de la Bible, qui est notre fondement, participer à des endroits, des moments, des temps où on va pouvoir s'enrichir de cette connaissance avec des frères et sœurs, dans les réunions diverses que propose l'Église, ou tout seul avec ses bouquins, mais chacun le fait comme il l'entend. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, soit prêt à toute bonne œuvre ou quelque chose comme ça. 2 Timothée 3,7, il y a encore un que j'ai appris il y a 50 ans, ce verset-là. Voilà. Oui, c'est important de savoir ces choses-là. L'apôtre Paul nous propose aussi de grandir en vraie sensibilité. Bien sûr, tout ce qui se passe dans le monde nous concerne, nous sommes impactés par ce que nous voyons. Quand nous voyons qu'il y a un tremblement de terre en Indonésie et qu'il y a des centaines ou des milliers de morts ou des gens des sans-abri, ça nous touche. Voilà. Mais il y a aussi des misères plus proches et que le Seigneur nous aide à véritablement discerner ce qui doit occuper le fond de nos pensées et ce qui doit nous animer en permanence et ce qui doit alimenter notre prière. Que nous puissions discerner jour après jour, pourquoi, Seigneur, tu demandes que je prie? Dans quel domaine il faut que j'exerce ce ministère de la prière que chacun peut faire chez soi, sans être un prophète aussi haut en couleur qu'était Ésaïe, par exemple? Et puis, il nous propose aussi d'être remplis du fruit de justice. Fruit de justice, pas seulement la justice des hommes. C'est bien que la justice des hommes, c'est surtout... le côté de la balance où il y a le plus d'arguments pour qu'on soit obligé de décider d'un côté ou de l'autre. Et on espère que c'est juste dans un grand nombre de cas. Et on sait bien que dans l'histoire, il y a des erreurs parfois. Par contre, c'est la justice de Dieu. Cette justice qui vient par Jésus-Christ, qui vient par celui qui est né comme admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Voilà ce que nous propose l'apôtre Paul, voilà ce que je vous propose pour 2019, c'est d'essayer de grandir, de travailler à grandir dans chacune de ces dimensions, grandir en amour, grandir en connaissance, grandir en sensibilité, grandir en justice, petit à petit, jour après jour, non pas une grande illumination, mais un engagement de chaque instant, un engagement de chaque jour. Et nous le disons, est-ce que nous le croyons, nous avons le Saint-Esprit en nous, qui est là, relisez les chapitres 13, 14, 15, 16 de l'évangile de Jean, où Jésus révèle cette venue prochaine du Consolateur, de celui de l'Esprit Saint, et il nous dit qu'il nous enseigne toutes choses, il nous rappelle ce que Jésus a dit, il rend témoignage au Christ, il est force de conviction, il nous conduit dans toute la vérité, il annonce les choses à venir. Nous ne sommes pas seuls, pas plus en 2019 qu'en 2018. Alors on a fêté Noël il n'y a pas longtemps, hein, n'oublions pas ce que ça signifie, c'est beaucoup de cadeaux, de fêtes, de réjouissances familiales, et c'est très bien, mais c'est aussi ce petit enfant qui est venu, comme la source qui alimentait le réservoir de Siloé. Elle n'est pas bien grande, elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle donne de l'eau pure qui permet d'alimenter la ville en permanence. Jésus est venu comme un enfant, non pas comme un chef tout puissant, il est venu comme un enfant, dans la fragilité, dans la faiblesse. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous devons porter en nous, le message que nous avons à donner autour de nous, le message prophétique, puisque je vous engage tous, à être prophète aujourd'hui dans votre vie de tous les jours. C'est un message qui passe par cet enfant qui est né dans une crèche. Et lors du culte d'adieu à Louis, le texte qu'il avait choisi, c'était celui du fils prodigue, hein, et c'est sa fille, j'ai oublié son prénom, qui a ajouté, et pourtant, Mary m'a dit qu'elle n'est pas croyante, mais elle a senti que ce qui était important pour son père dans ce texte, c'est qu'il témoignait de l'amour éternel et inconditionnel de Dieu. C'est ça qui a été dit par quelqu'un qui... Elle était en difficulté en tout cas par rapport à son, et on le comprend bien. Mais en tout cas, ce qu'elle a retenu de ce texte qui a été partagé, dans cette histoire du fils prodigue que tout le monde connaît bien, c'est que l'amour de Dieu, il est éternel, il est permanent, il est inconditionnel. Et voilà la promesse prophétique que nous devons annoncer à notre monde. Oui, il y a plein de choses qui vont mal, et c'est vrai, et chacun, nous avons des engagements sociaux, politiques, professionnels ou autres, dans lesquels nous travaillons pour essayer d'améliorer ce qui est à notre portée et dans notre pouvoir. Oui, ça c'est normal, et personne ne dit rien contre ça, mais au fond, nous-mêmes, est-ce que nous allons savoir nous appuyer là où il faut? Un peuple doit consulter son Dieu. Est-ce qu'il va consulter les morts pour les vivants? Non, un peuple doit consulter son Dieu. Alors voilà, je vais conclure, bien sûr. On a une espérance, parce qu'il y a un Sauveur qui est venu. On en a parlé il n'y a pas longtemps. C'était Noël, mais ça doit être Noël tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours de l'année, nous devons nous souvenir que Jésus-Christ est venu pour être ce que les prophètes avaient dans leur message, c'est qu'à la fin, Dieu aura le dernier mot, et ce dernier mot, c'est l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous et chacun des gens qui vivent autour de nous. Et je suis certain que le Seigneur nous aidera à choisir entre nous appuyer sur des prédiseurs, des gens qui prédisent un avenir plus ou moins facile, plus ou moins maîtrisé, ou bien alors la possibilité de faire l'expérience quotidienne de la présence fraternelle, amoureuse de Dieu à nos côtés. J'espère en l'Éternel qui cache sa présence au peuple de Jacob. Et je termine en lisant le chapitre 12 d'Ésaïe. Vous savez, Ésaïe est fait, il y a plusieurs chants, comme on appelle les chants. Et ça, c'est la fin du premier chant qui est sur un certain nombre de prophéties d'ordre messianique. Et le chapitre 12, c'est malgré toutes les perspectives funestes qu'Ésaïe voyait et annonçait au peuple, qui se sont réalisées dans la réalité de leur existence historique. La fin de ce chant, c'est un cantique de louange. Tu diras en ce jour-là, « Je te loue, ô Seigneur, car tu avais été irrité contre moi. Maintenant, ta colère s'est détournée de moi, tu m'as consolé. Oui, Dieu est mon sauveur. Je me confie en lui. Je n'ai plus de crainte, parce que l'Éternel est ma force. Et celui que je chante, c'est lui qui m'a sauvé. C'est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez son nom, annoncez aux nations ses œuvres merveilleuses, proclamez partout la gloire de son nom, célébrez l'Éternel, chantez en son honneur, car il a accompli des œuvres magnifiques. que dans le monde entier on puisse les connaître. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, car au milieu de vous, il montre sa grandeur. Que le Seigneur puisse le faire pour chacun d'entre nous dans cette année 2019. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est vivante, elle nous percute dans notre quotidien. Elle vient rencontrer nos existences dans les moments faciles, dans les moments difficiles. Que nous puissions vraiment nous accrocher à cela, Seigneur, et avec toi apprendre à grandir en amour pour les gens que tu places sur notre route, grandir en connaissance de ce que tu es, ce que tu nous révèles par ta parole, grandir en sensibilité pour discerner, pour comprendre ce qui doit nous inciter à te prier, grandir en justice pour que nous puissions vivre la justice qui vient de toi. Seigneur, accompagne chacun de nous pendant cette année, console les cœurs affligés, encourage ceux qui en ont besoin et sois vraiment celui qui guide nos pas jour après jour. Amen. Thank you.